Chapitre 31. Nevea était assise au bout du lit d'hôpital de son père, sur une chaise où elle se sentait à peu près aussi à l'aise qu'à un dîner officiel de la chambre de commerce de Jefferson Run. Elle était arrivée juste après le début des heures de visite de la matinée. L'équipe médicale lui avait expliqué que l'état de Keith Carruthers n'avait pas évolué et qu'il faudrait bientôt envisager un transfert vers un établissement de soins longue durée. Nevea savait que la mutuelle de leur père ne couvrirait pas ce genre de frais, mais qu'ils ne risquaient pas pour autant de perdre leur maison, car Keith l'avait mise à son nom et à celui de Dante 5 ans plus tôt, en anticipation d'un événement comme celui-ci. « S'il m'arrive un pépin, je tiens pas à ce qu'une clinique privée récupère tout ce qu'on a construit », avait-il déclaré avant de leur faire signer plusieurs documents. « Ce que maman et toi avez construit », avait-elle pensé.
« Quand j'ai eu mes règles pour la première fois, on habitait encore dans notre mobile home du skit », dit-elle. « Maman m'a trouvée assise sur les toilettes, en larmes. Il y avait du sang sur mes cuisses et sur la lunette. Je savais ce qui se passait. Elle m'en avait déjà parlé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi abondant. J'étais terrifiée, putain. C'est une chose de connaître la théorie, c'en est une autre de voir du sang couler entre ses jambes. Maman m'a aidé à me nettoyer. Elle m'a expliqué le fonctionnement des serviettes hygiéniques et elle m'a dit « Je vais pas te sortir le discours habituel de « t'es une femme maintenant » parce qu'être une femme, c'est beaucoup plus qu'avoir ses règles. Les choses ont changé et tu vas devoir en tenir compte désormais. » Je lui ai demandé quelle chose avait changé, mais elle m'a répondu que ce serait une discussion pour plus tard. Sauf que cette discussion, on n'a jamais eu l'occasion de la voir. Elle se leva, s'approcha du lit et se pencha jusqu'à ce que sa bouche ne soit plus qu'à 1 ou 2 centimètres de l'oreille de son père. Il émanait de lui l'odeur du gel antiseptique avec lequel on le nettoyait, à laquelle se mêlait la puanteur âcre de l'urine en provenance de sa sonde. « Tu nous en as empêchés, » reprit-elle. « Tout ça parce que maman couchait ailleurs. T'aurais pu la laisser partir. Elle voulait pas de toi, c'est pas pour autant qu'elle voulait pas de nous. Et toi, t'as préféré la tuer. » La porte de la chambre s'ouvrit et une infirmière entra avec 3 poches de perfusion sur un plateau, qu'elle posa sur une table à côté du lit. Son badge indiquait qu'elle s'appelait Dorothy. « Je vous dérange une petite minute, d'accord ? Désolé. » Nevea s'écarta le temps que l'infirmière change les poches. « Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? » demanda-t-elle. « La première, c'est du sérum physiologique pour qu'il reste bien hydraté. » La deuxième, une solution riche en nutriments pour lui fournir les calories dont il a besoin. Et la dernière, un anticoagulant pour éviter la formation de caillots. Je savais pas qu'il était sous anticoagulant. C'est moi qui m'occupais de ses traitements avant son accident. Et il prenait principalement des médicaments pour l'hypertension, en plus de quelques compléments alimentaires, du potassium et du magnésium. De ses traitements et de tout le reste, pensa-t-elle. Alors que ce type a tué ma mère. Ah non, l'anticoagulant, c'est parce que les personnes dans son état sont plus à risque de développer une thrombose, expliqua Dorothy. Mais rassurez-vous, on a nettoyé son sang au préalable. Nettoyer son sang? Mais pourquoi? Pour éliminer les éventuelles substances contre-indiquées avec la prise d'un anticoagulant, justement. L'aspirine, par exemple. Ah, je vois. Je tiens à vous assurer que votre papa est entre de bonnes mains. Je vous vois ici souvent. Je me doute qu'il compte beaucoup pour vous. Alors soyez tranquille, nous faisons le maximum pour lui. Merci, dit Nevea. Mais vous pourriez aussi arrêter, songea-t-elle. Arrêter de faire le maximum et le laisser partir. Comme ça, ma maman pourrait lui faire coucou depuis le ciel, pendant qu'il descend vers l'enfer. Je crois que je vais y aller, annonça-t-elle. Vous avez du travail. Est-ce que vous voulez lui dire au revoir avant de partir? Ils peuvent nous entendre, vous savez, même si c'est juste un murmure. On a des patients qui se sont réveillés d'un long coma et qui se souvenaient d'absolument tout ce que leur avaient raconté leurs proches. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Alors qu'elle traversait le parking, elle sortit son paquet de cigarettes de sa poche et s'en alluma une. Sous la couverture de laine grise que formaient les nuages, elle fuma, adossée à son pick-up. Elle ne pensait pas revenir à l'hôpital. D'ici la fin de la journée, avant de partir pour le vignoble, elle appellerait le médecin et lui demanderait de lancer la procédure de transfert vers un établissement de soins longue durée. que ces gens-là s'occupent de le nettoyer, de le soigner et de le nourrir avec l'espèce de bouillie pour bébé dont ils remplissaient leurs poches de perfusion. Si son père atterrissait dans le centre de convalescence du comté de Warren, ou dans un de ceux qui se trouvaient du côté de Richmond, elle n'aurait plus à lui rendre visite et à faire semblant de se soucier de son sort. Au fil des ans, il y avait eu plusieurs moments où elle avait eu le sentiment de devoir sacrifier sa vie, telle une engagée volontaire dans une armée d'une personne. Une sentinelle chargée d'empêcher la chute de la maison Carruthers, matin, midi et soir, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Gérer la boutique, payer les factures, essayer d'empêcher Dante de consommer, d'empêcher son père de s'emporter, d'empêcher Roman de les oublier. Nevea jeta son mégot et l'écrasa. Plus jamais. Elle en avait fini. Sa veille était terminée. Bruce Wallis se gara dans une rue pavée aux abords du Trout, regrettant déjà d'avoir accepté d'enchaîner deux services de suite. Au moins, maintenant que la température extérieure ne dépassait plus les 15 degrés, il ne ferait plus une chaleur infernale en cuisine. Bruce descendit de sa voiture et remonta la rue. Il s'apprêtait à frapper à la porte pour que Josh vienne lui ouvrir quand il entendit des bruits inhabituels en provenance du pâté de maison voisin, une cacophonie de conversations, mêlée de cris, de rires et de jurons. Ça faisait 4 ans que Bruce habitait à Jefferson Run, et il savait donc que le mieux était d'ignorer ce vacarme et d'aller travailler sans poser de questions. Sauf que, parmi les gens qui remontaient à présent la rue en secouant la tête, il reconnut plusieurs visages. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il à Tyler, un de ses commis. « Le Ghost Town Crew a fumé un mec. »« Quoi ? Tu veux dire qu'il y a un cadavre là-bas ? » ?»« Non, une voiture. La caisse de Splody. Criblée de balles sur tous les côtés. » Bruce crut qu'il allait tourner de l'œil, mais il se reprit. Il n'était pas du milieu, mais il n'était pas idiot pour autant. Il connaissait les véritables propriétaires du Trout. Les types qui ne payaient jamais leur repas, mais qui laissaient parfois d'énormes pourboires. Torrent et Tranquil. Les frères Gilchrist et leur bande. Splody faisait partie de cette bande. Et si sa voiture avait effectivement servi de stand de tir, alors le quotidien à Jefferson Run s'annonçait particulièrement dangereux dans les jours à venir.
Elle est où ? Demanda Bruce.
À l'angle là-bas, devant l'ancienne épicerie. Je me demande comment ils ont pu l'amener jusqu'ici. La pauvre bagnole ressemble à un morceau de gruyère avec des roues.
Bruce s'éloigna dans la direction indiquée.
La vache ! Souffla-t-il, lorsqu'il arriva en vue de l'épave.
La Honda de Splody ressemblait plus à une écumoire branlante qu'à une voiture. Bruce avait une vue supérieure à la moyenne, de sorte qu'il n'eut pas besoin de s'approcher pour constater que derrière le pare-brise explosé, le siège conducteur en tissu blanc était imbibé d'un liquide couleur bordeaux. Sur le capot, on avait tagué une silhouette de fantôme à la bombe. Un graffiti qu'on retrouvait aussi sur ce qui restait de la portière conducteur. Quand Bruce retourna au Trout's, il vit que Tyler l'attendait devant la porte, l'air pensif, et il songea qu'il devait probablement arborer la même expression.
« Les BBB vont les défoncer, tu crois pas ?»
fit Tyler.
« Si, espérons qu'on se retrouve pas pris entre deux feux. Allez, viens, on a du boulot. »
Torrent était ivre lorsque Roman le rejoignit au Kingdom. Il était installé dans une alcôve en compagnie de D-Train, Corey et Tank. Sa coupe afro penchait d'un côté et sa chemise blanche, toujours impeccablement repassée, était froissée et sortait de son jean. Il avait les pieds sur la table et tenait à la main un gros verre en cristal taillé. Tranquil, lui, n'était pas dans les parages. Roman se fit la réflexion que, où qu'il soit, les gens qui croisaient sa route devaient passer un mauvais moment.
« Assieds-toi, l'intello !» ordonna Torrent.
Dans sa jeunesse, le grand-père de Roman, du côté de sa mère, avait travaillé dans un abattoir de porc dans le comté de Red Hill. Et il racontait souvent des histoires de collègues qui ne savaient pas manipuler le pistolet d'abattage correctement et qui s'étaient retrouvés avec des morceaux de main manquants.
« Il n'y a rien de plus dangereux qu'un animal blessé avec des dents », avait-il coutume de dire.
Torrent était blessé et ses dents étaient acérées. Sa fierté était blessée parce que le GTC avait déposé la voiture de Splody à quelques pas d'un bar dont tout le monde savait qu'il était la propriété des frères Gilchrist. Son cœur était blessé car il semblait avoir beaucoup d'affection pour Splody,
autant qu'il était capable d'affection pour quelqu'un qui n'était ni tranquille ni jalousie. Mais c'était son moral qui semblait le plus sérieusement atteint. On pouvait lire la fatigue sur son visage, un découragement qui émanait des pores de sa peau et se mêlait à tout le gin qu'il avait déjà ingurgité.
« Je veux te poser une question »,
bafouilla le gangster en retirant ses pieds de la table. Roman tira une chaise, s'assit, et lorsque Torrent se pencha vers lui, il perçut la rage brûlante qui irradiait de lui comme la chaleur d'un des fours crématoires. « Désormais, il est vraiment capable de tout », se dit Roman. Une autre leçon que son grand-père lui avait enseignée au sujet des animaux, en cas d'agression, la pire réaction possible était la peur.
Soit tu tiens bon, soit tu te fais bouffer.
Roman resta bien droit sur sa chaise et offrit à Torrent son expression la plus neutre.
Qu'est-ce que t'as disploudi quand il est parti cette nuit-là ?
Vociféra Torrent, dans un déluge de postillons, son index s'agitant à quelques centimètres du visage de Roman.
Est-ce qu'il t'a raconté où il allait ? Essaie pas de me mentir, Latello !
Il ne m'a rien raconté du tout. Dès que les corps ont été enfournés, il est parti. Il nous a pas dit où il allait et on lui a pas posé la question. Torrent avait beau le fixer, Roman comprit que le chef des BBB ne le voyait plus. Son regard était perdu dans le vague. La faute en grande partie à l'alcool, mais probablement aussi à toutes les heures qu'il avait passées à sonder les abysses. Car quand on fait couler le sang, on finit par en payer le prix. Torrent semblait avoir compris qu'il allait devoir passer à la caisse. Et plus tôt qu'il ne le croyait.
« Le Ghost Town Crew va la sentir passer »,
maugréa-t-il. « Sentir passer quoi ?»«
La douleur que je vais leur infliger. »
Torrent termina son verre et le tendit pour qu'on le lui remplisse.
« J'ai lâché tranquille sur eux », ajouta-t-il. « Ces fils de pute n'ont pas fini de trembler.
« Bon, et sinon, combien de pognon on a gagné cette semaine avec le projet de revitalisation ?»« J'ai déposé 100 000 $ de plus sur le compte que je t'ai ouvert. J'ai aussi passé un accord avec Shade pour que tu récupères un petit pourcentage de la société écran que j'ai créée pour lui. » Le regard de Torrent s'embrasa.
« T'as parlé à Shade derrière mon dos ?»
Malgré la peur qui lui nouait l'estomac, Roman répondit « C'est lui qui m'a appelé pour avoir des nouvelles. Et comme je lui avais pas donné mon numéro, je suis parti du principe que tu l'avais autorisé à me contacter. » C'était la vérité, en partie. Shade était bien celui qui avait appelé Roman, pas l'inverse. En revanche, la nature de leur conversation ne s'était pas limitée à de simples nouvelles. Mais cela, Torrent n'avait pas à le savoir.
« Je te fais pas confiance, »
lâcha le gangster.
« T'es trop malin. » Mais t'es pas plus malin que moi. Et je sais que tu me détestes. Je sens la haine qui émane de toi. Par contre, je reconnais que tu sais y faire avec le pognon.
Torrent se frotta le visage.
Allez, dégage d'ici, l'intello, ajouta-t-il. Retourne me gagner du fric.
Roman se leva sans un mot, salua D-Train, Tank et Cory d'un hochement de tête et se retourna pour partir.
« Je pense toujours que tu m'as menti par rapport à Splody, »
lui lança Torrent.
« Mais tu l'as pas tué. C'est les mecs du Ghost Town Crew qui sont responsables. Et ils vont le payer. J'ai qu'une parole. »«
Je t'ai pas menti, » répondit Roman après une courte pause. « Mais t'as raison sur un point. Je t'aime pas. Heureusement, j'ai pas besoin de t'apprécier pour continuer à nous faire gagner de l'argent. Moi, c'est ça, ma parole. » Et il quitta le Kingdom. D'une roulette, Esteban Trujillo dribbla son ami Diego Diaz. Il faisait frais, mais Esteban ne s'en plaignait pas, lui qui avait tendance à beaucoup transpirer. Il jouait à 4 contre 4 sur le petit terrain de foot de Coleman Park, dans la partie ouest de Jefferson Run. Il y avait des parcs plus grands côté est, mais c'était le territoire des BBB, et Esteban savait qu'il ne valait mieux pas s'y aventurer. S'il ne faisait pas partie du Ghost Town Crew, beaucoup de ses amis en étaient membres. Aussi préférait-il rester dans ce quartier où il connaissait tout le monde. Esteban étudiait les sciences environnementales à l'université de Prosser State. Il avait l'intention de quitter Jefferson Run sitôt son diplôme en poche. En attendant, il adorait ses parties de foot endiablées du samedi matin avec ses amis.
Sur les gradins, quelques filles suivaient la partie. La plupart sortaient avec des gars du GTC, alors Esteban s'assurait de ne pas regarder trop longtemps. Un petit coup d'œil à la dérobée restait toléré. Du moins, l'espérait-il. Il passa Gabino Rodriguez et s'avançait seul vers le but lorsqu'il entendit les premières détonations. Le bruit lui évoqua un sac de clous qu'on aurait jeté dans une machine à laver en mode essorage. Il s'arrêta, se retourna, essaya de déterminer d'où provenaient les coups de feu. C'est alors que quatre balles chemisées, tirées par un Heckler & Koch MP5A3, traversèrent son front et sa mâchoire inférieure. Il s'écroula dans l'herbe, en compagnie de tous ses coéquipiers et de trois membres de l'équipe adverse. Deux des cinq filles assises dans les gradins tombèrent également, ainsi qu'un passant qui promenait son chien. Le chien s'enfuit, mais revint quelques minutes plus tard auprès du cadavre de son maître. Il était encore là quand la police arriva sur les lieux. Les enquêteurs étaient en train de délimiter le périmètre de la scène de crime lorsqu'ils reçurent un appel les informant qu'une autre fusillade avait éclaté. Cette fois, c'était au domicile de Tommy Hernandez, le bras droit et cousin d'Ernesto Salazar, le boss du GTC. Tommy fêtait la quinceañera de sa nièce quand six hommes à moto avaient surgi et s'étaient mis à mitrailler l'assistance avec des armes semi-automatiques. Le temps que les premiers secours arrivent, Tommy, sa nièce et sept invités étaient morts. Au même moment, à trois pâtés de maison de l'hôtel de ville, un magasin de cigarettes électroniques explosa. D'après les témoins, la bâtisse avait été instantanément réduite en un tas de gravats. L'explosion avait aussi détruit la boutique de sandwich voisine, heureusement vide, et fait voler en éclats les fenêtres du restaurant qui se trouvait de l'autre côté de la rue.
« Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ?»
demanda un pompier en se tournant vers un inspecteur.
« On dirait que Torren Gilchrist règle ses comptes. »
La nuit tomba. Et avec elle, un semblant d'apaisement bienvenu dans les rues de Jefferson Run. Une fine pluie arrosait la ville, comme si le ciel pleurait sur le sang qui avait été versé pendant la journée. La sonnette retentit alors que Roman était en plein appel vidéo avec Lil Glock, qu'il sermonnait à cause de l'énorme investissement dans lequel il s'était lancé sans juger bon de le prévenir. Il suspendit la conversation, le temps d'aller répondre. Il jeta un œil dans le Judas et ouvrit la porte. Dante se tenait sur le seuil, trempé jusqu'à l'os et empestant le bourbon. Il pénétra dans la salle d'attente du crématorium en titubant et se laissa tomber sur le canapé.
« Je la trouve pas !»
gémit-il. Les mots étaient bafouillés, mais Roman n'eut aucun mal à les comprendre. Ce n'était pas la première fois qu'il avait une discussion avec son frère alors que celui-ci était dans un état d'ébriété plus qu'avancé.
« Comment ça, tu la trouves pas ?»
demanda-t-il.
Cassidy, j'ai essayé de l'appeler toute la journée. Rien. Ensuite, ils ont retrouvé la bagnole de Splody devant le Trout. T'as regardé les infos? Les Bibibi sont en roue libre. Sept morts dans un parc, une fusillade à une fête d'anniversaire, une boutique explosée. Et pas qu'à moitié. Boum!
Dante mima une déflagration avec les mains. Son moignon avait cicatrisé. Mais il continuait à porter des mitaines avec le trou du petit doigt cousu. Roman s'assit à côté de lui.
« Et si tu t'allongeais un peu, le temps que je termine? Ensuite, on rentrera à la maison. Nevea est partie au vignoble. Pourrait se commander une pizza et se regarder un film sur Netflix. Qu'est-ce que t'en dis ?»«
Elle est morte, hein? Ces fils de pute l'ont tuée, tu crois pas ?»
Dante se mit à sangloter. De grosses larmes qui roulaient sur ses joues déjà trempées.
« Il y a des chances, oui, » acquiesça Roman. On lui avait pourtant dit de quitter Jefferson Run. À première vue, c'est pas les Bibibi qui ont fait le coup. Mais en même temps, quelle idée de se balader en ville au volant de cette voiture. Je suis désolé, frangin. Je sais que tu tenais à elle.
« Est-ce que c'est bientôt terminé, Rome? Il y en a encore pour combien de temps ?»
La détresse dans la voix de son frère fit une fois de plus éclater le cœur de Roman en mille morceaux. Il passa un bras autour de Dante et le serra contre lui. L'odeur de bourbon était puissante, mais pas autant que l'amour qu'il ressentait à cet instant.
« Pas longtemps, frangin, » promit-il. « Pas longtemps. »
Il laissa Dante s'assoupir sur le canapé pendant qu'il achevait sa conversation avec Lil Glock. Puis... une fois qu'il estima avoir suffisamment tensé l'ancien batteur, devenu star du gangsta rap, Il s'enferma dans la salle d'incinération. Il y avait une boîte de crémation sur le chariot élévateur. Roman s'était servi de l'ordinateur de son père pour en commander un lot dans le dos de Nevea. Il ne savait pas de combien il en aura encore besoin avant que toute cette histoire soit terminée. Il poussa le chariot jusqu'au four ouvert, l'aligna en face des rouleaux métalliques et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. La porte qui séparait la salle d'incinération de la salle d'attente ne fermant pas à clé, il devait faire vite et croiser les doigts pour que Dante n'ait pas la mauvaise idée de se réveiller et de venir le voir. Il souleva le couvercle en carton ciré. Chose rare, la morte avait le visage apaisé. Sa bouche et ses paupières étaient closes. Ses longs cheveux bruns lui tombaient en cascade sur les épaules. On aurait dit qu'elle dormait. « Je suis désolé », murmura Roman. Il remit le couvercle en place et poussa la boîte dans le four. 6 juin 2003. Soir, jusqu'à l'obscurité totale. Roman pédale en direction du crématorium sur le vélo de Dante, son petit frère assis sur le guidon. La rue où se situe l'entreprise familiale ne s'appelle pas encore Industrial Way, mais simplement 7e rue. Dans les 20 années à venir, la plupart de ces artères à numéro obtiendront un nom, et celles qui portent aujourd'hui celui d'officier confédéré en obtiendront un nouveau. Cela entraînera son lot de controverses, mais d'ici là, Roman sera à l'université de Géorgie à Atlanta, où il aura une aventure avec une de ses professeurs. Mais tout cela, il l'ignore évidemment. Il ne peut pas voir l'avenir. S'il le pouvait, il ferait demi-tour et regarderait des dessins animés avec Dante. Hélas, le destin en a décidé autrement pour eux. La citadelle de briques du crématorium apparaît devant eux avec ses deux cheminées cylindriques en guise de tour. Pour l'instant, il n'y a pas de fumée qui s'en échappe. Mais l'odeur âpre de chair brûlée flotte encore dans l'air. C'est une odeur que Roman et Dante auront l'occasion de sentir si souvent qu'ils cesseront d'y prêter attention. Mais pas aujourd'hui. Roman cale le vélo sur sa béquille. Il ne veut pas aller à l'intérieur. Il ne veut pas défier sa mère. Comme son père, elle représente pour lui une figure extraordinaire. Pas tout à fait une super-héroïne, mais plus qu'une simple adulte. Elle est sa maman. Elle est belle et sauvage, et il l'aime de tout son cœur. Mais il aime aussi son frère. Une idée que son esprit est encore incapable de définir le pousse à marcher jusqu'à la porte et à entrer dans le crématorium. Pour l'instant, cette idée se résume à « Dante n'avait pas à voir ça ». Dans quelques années, il sera capable de la théoriser de manière plus formelle. Les enfants doivent être préservés de la vie des adultes, surtout de leur vie privée. Ils n'ont pas à savoir ce que font leurs parents, dans ou en dehors des liens du mariage. Parce qu'il s'agit d'un contrat sacré passé seulement avec Dieu. Sauf qu'à leur manière, les parents aussi sont des dieux. Et ils ont un contrat sacré avec leurs enfants. Leur devoir est de les protéger, de ne pas leur faire de mal, et de leur permettre de vivre leur vie d'enfant. Mais ce n'est pas ce qu'ils pensent à 16 ans. Là, il se dit simplement que son frère est bouleversé parce qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Et que maintenant, il faut bien que quelqu'un réagisse. Inconsciemment, il sait que ce ne sera pas son père. Il ne comprend pas tout ce qui se passe entre ses parents, mais il sent bien que, même quand il est là, son père est absent. Il construit, il rêve, il anticipe l'avenir. Quitte à négliger leur présent. Mais ça encore, c'est une idée que Roman n'est pas encore en mesure de théoriser. Pour l'heure, elle se limite à une sensation. Un poids dans son ventre. Roman saisit la poignée et constate que la porte n'est pas verrouillée. Il entre dans la salle d'attente. Dante le suit. Il a arrêté de pleurer, mais il ne parle pas pour autant. Lui non plus ne veut pas être ici. Il ne comprend pas ce qu'il a vu, pas vraiment. Mais il devine que ce n'est pas quelque chose que leur mère est censée faire avec quelqu'un d'autre que leur père. Il quitte la salle d'attente et pénètre dans la salle d'incinération. Jusqu'à sa mort, c'est ainsi que Roman se souviendra de sa mère. Une peau brune, aussi douce que les pétales d'une fleur de magnolia, des yeux si clairs qu'on dirait de l'or et qui scintillent dans les derniers rayons du soleil qui filtrent à travers la verrière. Elle porte encore sa blouse d'infirmière,
alors qu'elle a pourtant terminé son service il y a plusieurs heures. Son visage est magnifique. Son sourire est à la fois un lever de soleil, un matin de Noël au pied du sapin, et un mélange de tous les moments de joie que Roman a connus au cours de son existence. Il ne le sait pas encore, mais c'est ce sourire qui lui manquera le plus. Aucun autre n'aura jamais le même effet sur lui.
« Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ?» demande Bonita, surprise.
« Vous êtes venu me quémander de l'argent pour aller au nouveau McDonald's, c'est ça ?»«
Quand j'y pense, ils doivent être tellement furieux à Church's Chicken de se retrouver avec un concurrent juste en face de chez eux. J'espère pour Ronald qu'il a pris des cours de boxe. »
Et elle éclata de rire à sa propre plaisanterie. C'est ce souvenir que regrettera le plus Dante. Ce souvenir qui entra ses rêves, le rire de sa mère, un son si pur, si doux, si unique. Leur mère fronce les sourcils en constatant qu'il ne rit pas. Elle les observe, comprend que quelque chose ne va pas. Elle connaît ces garçons.
Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe, Roman?
Roman est incapable de parler. Les mots refusent de sortir. Il ne pensait pas que ce serait aussi dur, et il ne s'est pas préparé à cette marée de chagrin qui a envahi sa poitrine. C'est finalement Dante qui, dans toute son innocence, pallie sa défaillance et va droit au but.
« Je t'ai vu avec Monsieur Oscar. Je vous ai vu par la fenêtre. T'étais penché. Et lui, il était derrière toi. Il te faisait des choses. »
Bonita blêmit. Roman sait qu'elle va essayer de mentir, mais la vérité se lit sur son visage, dans ses yeux, dans la ride qui s'est formée au milieu de son front, dans sa lèvre qui tremble. Et il se sent encore plus triste. Les mots qu'elle s'apprête à prononcer n'ont pas d'importance.
« Oh, mon chéri, ce n'est pas ce que... Ça n'a rien à... Je ne... Tu ne sais pas ce que tu as vu. »
Cette dernière phrase, cette dernière négation, ouvre dans l'âme de Roman une faille qui ne se refermera jamais et par laquelle une rage aveugle s'insinue dans tout son être. Le désenchantement, un mot qu'il ne connaît pas encore, envahit son cœur. Par cette dernière phrase, sa mère... La reine de la famille a jeté sa couronne à la poubelle.
« Il sait très bien ce qu'il a vu, » rétorque-t-il. « Pourquoi tu mens, maman? Comment t'as pu faire ça à papa ?»
Il sent qu'il fait mal à sa mère. Il la voit frémir. Mais Bonita Carruthers n'est pas du genre à laisser son fils lui parler sur ce ton, quand bien même serait-elle en faute.
« Fais attention à ce que tu dis, Roman. Je suis ta mère, alors ne me manque pas de respect. » « Les affaires de grands, ça ne regarde pas les enfants. »« Donc, sous prétexte que t'es grande, tu peux faire la pute et on n'a rien le droit de dire ?»
crache Roman. Et il se rend compte qu'il vient de pénétrer dans un territoire inconnu. Un royaume d'idoles déchues et d'empereurs destitués que tous les enfants doivent un jour traverser lorsqu'ils cessent peu à peu de voir leurs parents comme des êtres infaillibles et découvrent qu'ils ne sont que trop humains. Dans la plupart des cas, ce voyage se termine par une espèce d'acceptation, teintée de mélancolie. On n'aime pas nos parents parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils persévèrent malgré leurs imperfections. La grâce demeure inaccessible. La beauté réside dans le fait d'essayer de l'atteindre. Roman et Dante n'auront jamais l'occasion d'accomplir cette odyssée qui mène de l'idolâtrie à l'acceptation. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ni pour eux, ni pour Nevea. Ni pour Bonita. Sa mère lui assène une gifle. Le coup est rapide, violent, douloureux. Roman a l'impression qu'une abeille s'est posée sur sa joue et s'y est suicidée dans le seul but de lui arracher un cri. Mais il ne bronche pas. À 16 ans, il mesure déjà 1m75 pour 72 kilos. Dans quelques années, il atteindra 1m85. Le visage en feu, il attrape sa mère par les bras. Pourquoi ? Il aura beau chercher, jamais il ne trouvera la réponse à cette question. Il se dira que c'était un réflexe, qu'il ne faisait que se défendre. Il ira même jusqu'à essayer de se convaincre qu'il cherchait à lui faire un câlin. Comme si un câlin aurait pu régler quoi que ce soit. Comme si à 16 ans, Roman pouvait être en mesure d'analyser sa réaction lorsque sa mère a levé la main sur lui pour la première fois. Pour Dante et lui, la suite restera pour toujours dissimulée derrière un épais voile noir. Dans l'esprit de Roman, ce sera plutôt une succession d'images discordantes, illuminées par un stroboscope. il ne se fiera jamais à ses souvenirs et ne demandera jamais à Dante de lui révéler les siens. Ce n'est pas une conversation qu'ils ont envie d'avoir. S'il avait l'occasion, ne serait-ce qu'une seule fois, de pouvoir observer la scène telle qu'elle s'est réellement déroulée, peut-être qu'il parviendrait à en tirer un semblant d'absolution, mais cette occasion ne se présentera pas. Sa mère essaie de se dégager. Elle crie, elle jure, et Roman lui lance des insultes encore plus venimeuses. Il hurle, évoque son père, Dante, Nevea, lui-même. Ils ne se battent pas, cela ressemble plutôt à une lutte primale. L'expression physique de leur chagrin, de leur ressentiment et de leur perte. Dante apparaît, se glisse entre eux, les implore d'arrêter. Roman a un moment de lucidité et alors que sa mère déploie des efforts surhumains pour se dégager et que son petit frère cherche à le plaquer au sol, il finit par lâcher prise. Il vient de se rendre compte qu'il était sur le point de se battre contre sa propre mère. Une mère qu'il aime de toutes ses forces, malgré les horreurs qu'il vient de dire et malgré les choses que Dante a vues. Il lâche prise et elle tombe en arrière. Ni lui ni Dante ne comprendront jamais ce qui s'est passé. Dans leur pire cauchemar, ils la reverront tomber, les mains tendues, la bouche ouverte, le visage figé par la surprise. C'est à cet instant qu'ils se réveilleront. Ils ne se souviendront pas du bruit qu'a fait sa tête en heurtant l'angle du plan de travail sur lequel est fixé le broyeur qui permet de réduire en poudre les résidus d'ossements. Dans plusieurs années, alors qu'il dînera dans un restaurant teppanyaki, Roman devra se précipiter aux toilettes lorsque le chef jettera un morceau de filet mignon sur le grill. Le claquement de la viande sur le métal brûlant débloquera cet instant terrible dans les tiroirs perdus de son inconscient. Et il se penchera au-dessus de la cuvette pour vomir, les larmes aux yeux, sans vraiment comprendre pourquoi. Il regarde leur mère s'écrouler au sol. Une flaque de sang scintillant se forme autour de sa tête, comme une auréole rouge. Ses yeux sont restés ouverts, sa bouche aussi. Rapidement, sa langue perd de sa couleur alors que son cœur ralentit, puis s'arrête. Il se jette sur elle et tente de la réveiller. Ils essaient de la redresser, ils l'étouffent de baisers. Ils la supplient, ils supplient Dieu, ils l'implorent de se lever. « Je t'en prie, maman, lève-toi !» Ils restent là jusqu'à la nuit tombée, jusqu'au retour de leur père. Ils le voient pleurer en silence, ses larmes, des éclats de verre lui lacérant les joues. Puis il les envoie dans la salle d'attente et leur ordonne d'y rester pendant qu'il fait le nécessaire. Sa femme, leur mère, est morte. Mais il reste le corps. Ils entendent le four qu'on allume dans la pièce voisine. Au bout d'un moment, Keith Carruthers les rejoint. « On ne peut jamais dire à personne ce qui s'est passé ici. À personne, pas même à Nevea. Si quelqu'un le découvre, on vous séparera de moi. Peut-être même qu'on nous jettera en prison. C'est notre secret. Il est à nous, à personne d'autre. »
C'était un accident,
déclare Roman d'une voix blanche. Keith l'attrape et le serre contre lui. Roman perçoit les battements du cœur de son père à travers leurs vêtements, et il sent son odeur, un mélange d'alcool, de tabac et d'eau de Cologne bon marché.
« Je sais, fiston, » sanglote Keith. « Je sais. »
Dante s'approche, et Keith l'attrape à son tour. Il enlace ses deux fils avec une telle force qu'ils se sentent asphyxiés. Roman pleure contre son torse. Il se souviendra toute sa vie des minuscules gouttes de sang qui ont atterri de manière inexplicable sur le pantalon de sa mère et qui ressemblent à un tatouage au aîné. Et pendant longtemps, il se demandera si, après l'étreinte de ce soir-là, il réussira un jour à respirer à nouveau normalement.